Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes.
La luz es el primer animal visible de lo invisible.
Sana, san, la sœur, suce, ala, suce, sœur, galbe, bala, damble, galbe, soi, galbe, en soi, aïe, 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 qu'il est de l'amble, le osei, suye, le osei, suye, suye,
songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble.
Tarbe.
Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes.
Où s'exalte de la leuble,
tous les cordes et beauté, luxe, calme et volupté, des meubles luisants, polis par les ans. Décorerait notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale.
Là,
tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière.
Là,
tous les cordes et beauté, luxe, calme. Et volupté.
Les relais voulant faire foulant la file entière de la sainte d'or, la sainte exor, face et fa fière, fili folle, horte, foulamelle, ou s'exote.
Pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, le danseur Robert Cohan n'est pas capable d'affronter l'intensité du regard de Graham. Bien que la composition de la danse exige ce moment de regard entre eux, elle ne lui donne pas tant qu'il n'est pas prêt. Et puis il y a une soirée, lors d'une représentation, où le corps de Cohan est dans cette disposition. Alors, l'intensité peut se donner sans détruire le corps de l'autre. Je trouve que ce sont des vérités profondément liées à l'expérience de la danse, importantes à relever. Le rapport d'un corps à un autre engage tout un ensemble de jeux sur le plan éthique ainsi qu'au niveau de l'inconscient. Les danseurs doivent se préparer à affronter des choses qui sont parfois d'une telle intensité que cela pourrait être redoutable. Dans le discours de certains artistes, on entend souvent qu'il faut aller jusqu'au bout de son mouvement. Mais il y a un temps pour y aller. Parce qu'on atteint une sorte de cercle ou de frontière limite qui dit « Si tu ne te présentes pas à ce moment extrême dans les meilleures conditions possibles, tu as affaire à quelque chose de morbide ou de mortifère. » Daniel Debbels.
Vous êtes là pour quoi ?
À bout de souffle. Entretien avec Vincent Dupont.
Une cantus chemine dans le sillage de la langue, du corps
de la pièce
et de la lumière.
Un cantus.
Recherche d'un juste poids, une présence du corps qui ne soit pas écrasé, mais qui puisse nous paraître quand le danseur sent possible de se présenter. La main pense et le geste réfléchit cette pensée. L'objet remis demande à passer par le filtre d'une supplication, afin de conjurer le mauvais présage qui pourrait investir un tel objet. tous se présentent à nous. Musiciens, artistes de la lumière, danseurs, écrivains du mouvement, porteurs de langue, et chacun faisant, et chacun cherchant, une certaine relation à la scène. Chacun la tisse, mais aussi se laisse porter par une défaite. Et cela pour laisser un vide, un temps mort qu'un autre geste viendra habiter. Un creux pour que le geste séjourne encore. Un creux pour que le geste trouve son départ et sa chute. Et pour qu'un autre vienne le relever et l'oublier.
Bien alors, nous sommes au Centre chorégraphique national de Tours. Et nous avons ici Vincent Dupont. Bonjour Vincent Dupont. Vincent Dupont qui présente la pièce chorégraphique Incantus dans le cadre du festival Danse d'existence, Danse de résistance qui a lieu fin novembre ici à Tours. Alors, bon, déjà je dis Vincent Dupont présente, mais il sera pas seul à présenter hein, ce spectacle, puisque il y aura Raphaël Latini. Thierry Ballas, également, j'oubliais quelqu'un d'important à la lumière, Yves Godin, et trois danseurs.
Et une personne aussi qui s'occupe de logiciels, qui s'appelle Armando Menicacci.
Voilà, donc dès le début, on instaure un peu l'idée d'une équipe, parce qu'il y a plusieurs éléments qui se confrontent et qui sont présents sur ce spectacle. Et en même temps, c'est une démarche propre à votre travail. On l'avait déjà dans Au Cri, et il me semble que c'était déjà présent dans les spectacles précédents, Jachère, par exemple.
Je m'entoure en fait d'une équipe de gens depuis mon premier spectacle, particulièrement au son et à la lumière, où je les considère vraiment comme des interprètes, et j'entends par interprète le base du spectacle vivant, vraiment le noyau central, on pourrait dire. Et donc je peux m'adresser à eux comme à des artistes, en fait. J'ai besoin, en tout cas, moi j'ai besoin dans mon travail de pouvoir parler avec eux avec un vocabulaire qui est mon vocabulaire, et que eux puissent comprendre ce vocabulaire et pouvoir le passer au travers leur filtre à eux, leur expérience, leur vie d'artiste en fait. Donc ça permet déjà de travailler un peu plus vite. Et puis ça permet aussi d'essayer de tenter des choses ensemble pour essayer que voilà que le spectacle vivant soit vraiment reste l'enjeu que l'enjeu du spectacle vivant soit bien clair pour nous tous, et on essaye à chaque fois sur chaque spectacle de se poser la question quand même pour pas faire un autre spectacle, le énième spectacle qui suivrait l'autre spectacle. Et essayer de trouver voilà, un terrain qui nous permette d'expérimenter des questionnements qui nous semblent importants.
Alors aussi, vos propositions scéniques semblent explorer le corps dans sa présence, dans sa vibration, et quelque chose de l'ordre de sa parution. Et c'est assez présent dans Incantus. Et il semblerait que pour vous, le regard ou la vision détient le pouvoir de faire comparaître le monde, de le faire exister. Pour nous faire partager une expérience liée au temps du regard, alors vous instaurez un cadre, et à l'intérieur duquel vous désarticulez le son et l'image, à la manière des lettristes un peu, un son libre, non esclave de l'image, et vice-versa. Ce qui en résulte, c'est une matérialité du son et de la lumière, mais non perceptible directement. Ce sont les corps qui semblent en porter la charge, qui semblent en témoigner. Alors se dégage à la fois une articulation corps-son et une articulation corps-lumière. Ce qui semble nouveau par rapport à Au Cri, où on était dans une recherche son. Corps, alors que là, dans Incantus, il y a en plus une autre dimension lumière-corps.
Oui, pour Incantus, j'avais envie d'explorer la possibilité pour les danseurs, à certains moments dans le spectacle, de choisir le moment où ils entrent dans la lumière, le moment où ils en sortent, et le pouvoir jouer avec la variation de lumière en temps réel, en étant complètement libre, sans passer par un opérateur éclairagiste. Hein, voilà. Donc on a travaillé avec des capteurs sur les danseurs qui leur permettent de gérer en temps réel l'intensité lumineuse du plateau, chacun leur tour pendant le spectacle. Voilà. Ça a été assez long comme travail, parce que de travailler en fait obligatoirement avec des logiciels, enfin les capteurs sont reliés à des logiciels, c'est toujours très complexe. C'est plutôt quelque chose qui n'est pas encore complètement maîtrisé par nous, mais je pense aussi parce que c'est un outil vraiment neuf, nouveau. Et à la fin, en fait, assez bizarrement, on s'est retrouvé avec un outil assez, on pourrait presque dire assez archaïque, mais qui ne pouvait pas être remplacé par un opérateur qui ferait en direct, qui essaierait de faire en direct ces variations de lumière. Donc on a gardé quelques moments dans le spectacle, ça représente à peu près peut-être 10 minutes sur un spectacle qui fait 1h10, je crois, où justement ce travail sur la lumière était assez, assez fort pour nous, en fait. Ça nous a vraiment entraîné dans des questionnements assez... assez important, justement, sur la position de l'interprète, sur le rapport de la lumière au corps, et aussi ça nous a entraîné aussi sur un rapport du son avec le corps aussi. Voilà. Donc c'était assez, assez riche, même si pour l'instant je pense que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir tirer des conclusions très précises de cette expérience. Je crois qu'on peut dire qu'en le jouant, on se rapproche de ce questionnement qu'on a découvert sur cette pièce, sur Incantus.
Il y a quelque chose qui me fait penser quand même au cinéma dans ce spectacle Incantus. Peut-être bon déjà le côté noir et blanc, une lumière fébrile, en vibration, mais j'ai trouvé quelque chose où vous parliez de la question de la projection, et vous me disiez que le cadre permet rapidement de placer le spectateur dans la position de celui qui projette. Vous disiez aimer cette idée que la projection ne vienne pas forcément des interprètes vers le public, mais dans le sens inverse. Et Godard, à propos du cinéma, il dit ceci: le spectateur au cinéma est regardé par le film. Quand le spectateur regarde, la caméra est inversée, il a une espèce de caméra dans la tête. Et à la fois, il projette aussi ce qu'il est regardé. Et d'ailleurs, la première invention au début, la caméra, servait aussi de projection. C'était le même instrument, le même outil. Voilà, j'ai le sentiment que cet outil-là, ça, c'est quelque chose qui semble vous traverser.
Oui, je pense. Je pense... D'abord, il y a par rapport à tous mes spectacles, il y a une question par rapport au cadre qui pour moi, s'est révélé progressivement, en fait, dans mon travail. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre? Qu'est-ce que ça permet? Comment le faire vivre? Comment gagner de la liberté avec? Comment comprendre les tensions qui existent à l'intérieur? Et après, oui, par rapport à l'idée de projeter plutôt vers la scène plutôt que l'inverse, c'est vrai que c'est plus tout simplement une position de spectateur que je préfère, en fait. Mon premier spectacle, La chère improvisation, c'était vraiment une des bases de ce projet, c'était quand même d'imaginer une place qui soit pour moi une place de spectateur rêvé presque, c'est-à-dire quelque chose de presque une place assez tranquille, Je veux dire, dans la façon presque de sentir son siège, d'être assis, d'être là, d'être voilà, face à quelque chose, à un objet. Et puis être petit à petit attiré, emporté par ce qui se passe, par ce qui se joue, mais d'une façon qui pourrait être personnelle, individuelle. Et d'ailleurs, sur ce spectacle, les spectateurs avaient des casques audio qui, je pense, qui aidaient beaucoup à ce rapport intime à l'objet, enfin, personnel. Et moi, c'est une place que je défends et que je préfère en général. Même ça a été à un moment, c'était même un rejet par rapport à une certaine forme de projection que j'ai pu connaître quand j'ai fait du théâtre. Particulièrement, je dirais, quand j'ai découvert la danse contemporaine, mais où j'avais un rejet complet de cette projection que je trouve toujours assez volontaire, en fait. Et qui, du coup, j'avais envie d'essayer de déplacer, voire d'effacer.
Une de vos questions importantes, qui est celle de la capacité à retrouver le désir comme force. Donc, c'est peut-être là où l'enjeu de la scène revient, en tant que spectacle vivant, être sur une scène avec cette question du désir, où vous travaillez aussi donc dans ce qui se retire, une forme de précarité, c'est-à-dire que ce qui vient à nous n'est pas donné, qu'il faut l'appeler et en prendre soin. Puis aussi une forme de lenteur, dont on avait déjà parlé dans « Au cri », comme si ralentir le mouvement permettait d'éviter le chaos. Par exemple, là, je pense à Deleuze qui dit que quand un événement passe trop vite, il n'a pas le temps de laisser une marque, de s'imprégner dans la conscience. Donc c'est chaotique, en fait. On ne le remarque presque pas. C'est l'ordre du chaos. Deleuze dit soit il faut aller très très vite pour qu'il se passe quelque chose, ou soit presque faire du sur place pour que ça vienne. Et c'est comme si ces gestes très très lents, finalement, laissaient le temps à ce qui vient, à ce qui passe, de se déposer quelque part. Comme si ça laissait le temps aussi au désir de prendre forme et de ne pas se consommer et finir en pulsion.
Oui, je pense que c'est beaucoup, en fait, une question de vitesse. C'est-à-dire, c'est des questions de vitesse, en fait, que ce soit des vitesses plus lentes ou plus rapides. Mais c'est prendre conscience, oui, d'un rapport du mouvement au temps, qui, je pense, est une des forces de la danse contemporaine, de pouvoir travailler sur ça, sur ces possibilités de vitesse. C'est vrai que les spectacles que j'ai faits, je travaille plus sur des vitesses lentes, mais ça m'intéresse beaucoup aussi de travailler sur des vitesses rapides.
Oh.
dans Ocré, il y avait un cadre. Et dans Un Cantus, il y a un cadre aussi, qui est là, qui est présent. Et en fait, il y a une découpe de l'espace en deux espaces. Il y a un avant-espace dans lequel se tient un personnage, en l'occurrence vous, il y a une incantation, un appel. Et cet appel va et charge l'espace qui se trouve devant vous, le plateau, voilà. Et ce cadre, donc, il est très, très marqué, il renvoie aussi à l'idée d'une boîte hein, dans laquelle va s'animer des choses. Là, on retrouve aussi chez vous quelque chose que vous avez aussi travaillé sur Un Cantus, Ocri, le rapport entre la voix et le corps qui s'anime. Et là, on a le sentiment que vous poussez ça, que vous allez davantage dans ce travail-là, de faire comment, à un moment donné, un chant, une voix, l'incantation, peut donner vie à des éléments et donner forme à des corps, leur donner vie, les animer en définitive.
Oui, c'est-à-dire qu'on a, on a imaginé voilà, ce proscénium, en fait, un peu, presque un peu à la manière de ce qu'on peut imaginer peut-être du théâtre antique, entre le rapport qu'il peut y avoir entre ces acteurs qui viennent, le coryphée, les discussions qui s'engagent, enfin moi de ce que j'ai pu lire, entre le public, les questions, les retours, les... comme ça, ouvert, tourné vers le plateau finalement, vers ces acteurs, qui d'ailleurs bougeaient assez peu, et qui étaient sur des sortes de chaussures assez hautes. Voilà. Et du coup, on a eu envie en fait que, en commençant par le son, en essayant de créer notre incantation à nous, voilà, actuellement, avec nos moyens, avec nos désirs, comment on pouvait charger suffisamment un plateau vide, simplement entouré de rideaux, un plateau de théâtre, pour que des interprètes puissent avoir la force de venir, de surgir de derrière les rideaux, venir sur le plateau et peut-être nous délivrer quelque chose, dans le meilleur des cas. Voilà, Un Cantus, c'est, pour résumer très vite, c'est ça, c'est un appel pour voir s'il peut encore se passer quelque chose, et quelle chose cela pourrait être, en s'aidant de tout ce qu'on peut trouver, nous, pour charger cette incantation, charger cet appel, à la fois le son, le corps et puis la lumière.
Il semble aussi que dans Un Cantus, donc quand vous rentrez sur scène, donc cette incantation, en fait, vous allez la faire avec une langue particulière, qui me semble qu'il serait pas tant la recherche d'une nouvelle langue, mais plutôt qui se situerait beaucoup plus sur la question du rythme et de la sonorité, c'est-à-dire de quitter la syntaxe comme forme structurante, On pourrait plutôt la voir comme une couche de sédiments, des petites briques qui s'empilent et qui s'agencent, mais plutôt une langue qui chercherait une sorte d'onde, une énergie, quelque chose de sensitif, un peu à la façon dont, dans les années 70, Louis Wolfson avait essayé de travailler, voire Beckett sur l'épuisement. Vous nous avez parlé de Tarkos dans
Tarkos, oui.
Donc, on a aussi pensé à Gerasim Luka sur tout ce qui est l'ordre de faire bégayer, de travailler vraiment sur la sonorité et le rythme aussi qui veut dire corps. Donc, cette recherche.
Je suis très touché par toutes ces références. Évidemment, pour moi, c'est des gens très importants. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un moment, quand j'ai découvert la danse contemporaine, ça a été très compliqué pour moi de continuer à être acteur. Le questionnement de la position sur le plateau, pour moi, était un vrai questionnement en tant qu'interprète. Et notamment la question de la projection du texte. Donc j'ai commencé, en fait, sur mon premier spectacle, sur Jachère Improvisation, à travailler avec ma voix, en la passant par une petite machine qui s'appelle un chaos pad, qui est une sorte de machine dans laquelle il y a plein d'effets possibles, de filtres, des réverbes, des choses en tout cas qui peuvent filtrer la voix, la déplacer, la mettre dans un autre espace, dans une autre texture, presque une autre hauteur. J'ai essayé de voir ce qui pouvait rester, quel langage pouvait être filtré et avoir trouver une projection qui moi me semble plus juste, se rapprocher de mes préoccupations en fait d'interprète. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur cette sorte de langage qui pour moi, une sorte de langage presque d'après le langage, en fait. Pas d'avant, mais peut-être d'après. Une sorte de, comme ça, de présent, un présent qui serait fait de toutes les sommes musicales que j'ai pu entendre, de différentes langues, de différentes personnalités, de différentes façons d'être dans les mots, d'être dans le langage. Et puis je travaille avec ça. J'essaye d'en faire une matière qui pour moi raconte quelque chose ou qui m'emmène quelque part. Je suis assez content que vous me posiez cette question parce qu'en fait depuis mon premier spectacle on me pose très peu cette question et je suis toujours un peu surpris parce que ça fait partie des matières importantes avec lesquelles je travaille sur tous mes spectacles. Même si des fois il y a des textes qui sont dits très clairement, la plupart du temps les textes que je produis moi-même sont filtrés, sont pour la plupart incompréhensibles, mais j'espère sont chargés d'une chose émotionnelle qui est de l'ordre de la voix ou de la respiration, du souffle, au travers de souvent de filtres. Des fois, il y a très peu de filtres, des fois, il y en a beaucoup, mais en tout cas, une sorte de déformation comme ça, une sorte de déplacement de la projection vocale ou de la respiration du corps.
C'est vrai que vous parlez beaucoup de filtres et de projection, mais en fait, sur cette langue, j'avais marqué un état de la langue, comme Giacometti recherchait un état du corps. C'est-à-dire qu'effectivement, les corps de Giacometti, donc avec des prélèvements, des corps filiformes, donc qui ne correspondraient peut-être pas à l'anatomie de l'homme, mais qui n'ont pas un souci de vraisemblance ou tout de suite de mimésis, un rapport mimétique, mais qui fait jaillir quelque chose de l'ordre de l'état. Donc je vais noter que votre langue était plus un état de langue, comme Giacometti, un état.
Ouais, ça me plaît bien ouais, comme idée. Ouais. Un état de langue, ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui se crée à l'instant présent, quoi. C'est l'intérêt de pouvoir être dans une invention au moment où la musique se crée dans le rapport au public, quoi. J'ai toujours besoin de questionner ouais, cette projection, mais qui est aussi comme vous disiez la question de la présence et de la projection du corps et de l'incarnation du corps ou de la désincarnation du corps. Et je pense que ces questions-là, c'est vraiment sont des questions de spectacle vivant, enfin de plateau, quoi. Et que je pense que c'est un espace qui permet ça encore, quoi. Le fait qu'on soit en direct avec les corps, c'est fait pour ça, quoi, quand même. Enfin, je pense que c'est la force, quand même, une des forces principales du spectacle vivant, c'est d'être là, présentement, sur scène, à jouer quelque chose dans un rapport qui est un rapport. On est dans le même espace, on est dans le même air, et que cet enjeu-là, je pense que oui, c'est vraiment un enjeu qu'il faut toujours essayer de recentrer régulièrement, parce que très vite, en fait, avec toutes les sortes de médias qu'on croise, on peut très vite faire de l'image, on peut très vite faire du son, accompagner musicalement, et que ce soit joli, enfin que ça marche, hein, c'est pas ma question, mais du coup, je pense que ça marche pas aussi bien, et en tout cas, j'ai l'impression que l'absorption du public de ces questions-là, du coup, est oubliée, alors que je pense que le public est là aussi pour pouvoir justement questionner ça, qu'est-ce que c'est que regarder un autre corps, qu'est-ce que c'est qu'une autre présence, qu'est-ce que c'est qu'une autre voix, qu'est-ce que c'est qu'un espace rêvé ou un espace de projection, de vision. Voilà, et tout ça dans un temps commun, dans un temps de partage, en fait, d'une représentation.
Baikemes, baikemes, totale, ito nace to ucheta. La keneto, oh, la keneto, oh, la na keneto, oh, tilita, in mambo, oh, de yo. Now Ojo loco, ya te envenené. No lo molesta, no.
Tout à l'heure, vous disiez que l'incantation, elle charge le plateau, mais elle charge aussi la salle complète, c'est-à-dire elle charge aussi le public. D'ailleurs, il y a une sorte de préambule au spectacle, qui est très très important. Vous chargez deux instruments que vous donnez à vos collègues. C'est le rituel. On prend un instrument qui est profane, vous le chargez avec une incantation, et puis vous l'apportez à votre collègue au son, je crois. Et puis un autre objet que vous chargez avec une incantation et vous l'apportez à un autre collègue. Ce faisant, c'est tout le monde qui s'en retrouve chargé, en fait. Là, c'est comme si à un moment donné, au son, c'est plus tout à fait uniquement un simple ordinateur ou des simples machines. C'est quelque chose qui communique avec le divin, quoi. Et ça, c'est un moment très très fort, en fait. C'est ce qui fait qu'on peut rentrer dans une écoute et dans un regard aussi, j'ai le sentiment.
Oui, bah c'est, j'espère que ça permet ça, ce serait bien. Bah effectivement, je me disais, pour cette incantation, on est trois à produire du son, il y en a deux, un qui s'occupe de la lumière et puis un autre qui s'occupe de la lumière avec le logiciel. Donc on est cinq sur le proscenium. Voilà, on est ensemble, donc c'est bien de distribuer aussi un peu les enjeux presque de ce qu'on va tenter, que ce soit clair, que chacun ait son objet comme ça sur lequel il va pouvoir à un moment se servir pour peut-être aller un peu plus loin ou trouver un nouvel espace pour l'inscrire et que effectivement le proscenium reste toujours un espace ancré, enfin vraiment avec ces gens qui vont être là, qui sont de dos ou trois quarts dos, mais qui sont toujours présents même quand le plateau est vivant. C'est-à-dire qu'on est, faut toujours que c'est ça en fait, c'est ça qui permet, je pense, la projection, c'est ça qui permet de pouvoir rentrer dans une sorte de vision ou d'apercevoir en tout cas cette vision. Voilà, d'ancrer vraiment, parce qu'en fait, je pense que le proscenium c'est vraiment un endroit pour faire ça. Je pense que c'est vraiment, c'est le passage, quoi. C'est l'endroit où on peut permettre, ouais, que l'énergie qui passe, qui circule, c'est le filtre, en fait. Presque, ce serait presque le filtre, l'espace au travers duquel la vision va être déviée ou transformée ou s'ouvrir, ou je sais pas. Et du coup, il faut que le proscenium soit vraiment très concret, très et qu'il reste présent malgré tout.
En fait, c'est quand même très étrange de pouvoir sur une scène, dans une salle de danse contemporaine ou une salle de spectacle vivant, d'avoir cette expérience très archaïque et à la fois avec une technologie très contemporaine finalement. c'est une expérience unique, quoi, quand même.
Ah, super, merci.
C'était pas une question, mais c'est... c'est que souvent, les technologies, les nouvelles technologies, elles sont vues comme quelque chose qui désancre l'homme de son histoire, un progrès comme toujours quelque chose qui va vers une déshumanisée, quoi. Alors que là, se joue finalement, ces nouvelles technologies, elles ramènent l'homme vers plutôt son aspect archaïque, vers une histoire.
Mais je crois qu'on a vraiment besoin des nouvelles technologies. Je crois qu'on a vraiment besoin de ne pas hésiter à s'emparer de nouveaux outils. Ça, je pense vraiment. Je pense que ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'il y a des fois des réticences ou effectivement par rapport à ce que vous disiez. Moi, je pense au contraire qu'il faut carrément s'en emparer. Par contre, ce qui est très dur, effectivement, c'est d'arriver à maîtriser. C'est pas vraiment le mot juste parce qu'en fait, c'est tellement complexe assez vite que maîtriser, c'est pratiquement impossible. Ou alors, ça demanderait des années. Mais d'arriver à pouvoir réduire, en fait, ces outils, faire des choix à l'intérieur très précis par rapport à un objet scénique, c'est-à-dire vraiment choisir des choses très précises, arriver à réduire, en fait, ouais, à réduire presque comme une décoction, une sorte de réduction, pour finalement arriver à en tirer une sorte de concentré, et qui du coup, je pense, a une vraie place, peut trouver une place sur un plateau. Et là, c'est un peu ce qu'on a, ce qui s'est passé pour nous assez vite, parce que les capteurs sur les danseurs, les logiciels liés à la lumière, il y a énormément de possibilités, de variations, de trucs. Et en fait, très vite, on a décidé que chaque danseur choisisse un capteur avec lequel il se sente le plus à l'aise, alors qu'on pourrait en mettre 10, hein, on pourrait très facilement, mais qu'il ne se charge que d'un capteur, qu'on lui donne une rampe de lumière, qu'on choisisse avec lui, qu'on choisisse ensemble un type de lumière de plateau qui pourra l'éclairer, et que lui, avec ça, simplement déjà ça, il essaye de jouer avec, quoi, déjà de pouvoir jouer avec. Et du coup, après, on a fait des choix dans les propositions qui sont arrivées, mais on est resté finalement sur quelque chose de vraiment très très simple dans les propositions de départ. Et même malgré ça, on a perdu énormément de temps pour gérer tous les problèmes techniques qui sont liés à ces nouvelles technologies, qui sont quand même souvent assez inquiétantes. Là, je parle beaucoup de l'ordinateur, c'est-à-dire que c'est quand même un outil extrêmement performant, mais qui est assez peu fiable, surtout en spectacle vivant. On a des exemples autour de nous, des histoires assez... où d'un seul coup l'ordinateur, 5 minutes avant que le spectacle démarre, ne s'allume plus du tout. C'est encore des outils très fragiles et qui sont pas faciles à utiliser et qu'il faut des fois même prévoir. Et nous, c'est ce qui se passe pour Incantus, un remplacement au cas où il y a un problème. C'est-à-dire, ce sont des outils tellement peu fiables qu'on est obligé de prévoir par exemple là pour la lumière, une console lumière qu'on puisse tout de suite brancher sur les capteurs des danseurs et tout pour récupérer les possibilités. Mais malgré tout ça, et je pense que ça va aller en s'améliorant, je pense, de plus en plus par rapport à la fiabilité, il faut absolument, je pense, utiliser ces outils qui sont des questionnements finalement par rapport à des possibilités de présence scénique.
Yan likidan likidan bar likidin likidin bin
Yangosan yar Yangosan gin Yangosan gin
Hakon jal bal gal Hakon jal gal bal Hakon jal bal gal
Yan
Gish gish dalambaya gnan gdin galim baldaya bondo boko bondo bokon gal ondo boko ondo bokon val bondo bokon bal vjan lian likidan likidan ban likidin likidin bin yangosen yar yangosen gin yangosen gin
hakonjal bal gal hakonjal gal bal hakonjal bal gal
lian zas zefeten zefeten yas zas giveten giveten fas zefeten har zefeten has zefeten haro has
Hai kal gai ban gun gan dai dan gai han gun gan stipito blai
Hai kal gai ban gun gan dai dan gai han gun gan stipito blai
shum bala binna binde binde shum bala ba Jonga vene jonga vine jonga vanga vanga vina jonga gena jonga gine jonga 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 ha Gyan likidan likidan ba Likidin, likidin, bin, Yangyosun gar, Yangyosun gin, Yangyosun gin.
Hakonjar bal gal, Hakonjar bal gal, Hakonjar bal gal, Lian.
Hakonjar bal gal, Hakonjar gal bal, Hakonjar bal gal,
Lian.
Hakonjar bal gal, Hakonjar gal bal, Hakonjar bal gal,
Lian.
Voilà. À bout de souffle est terminé. Se termine. Va terminer. N'est pas encore terminé. Nous vous laissons sur ces vocalises de Merce Cunningham et de John Cage. C'était un entretien avec Vincent Dupont à propos de la pièce chorégraphique Incantus. Archives sonores, son, un extrait de Notre musique de Jean-Luc Godard, un poème sonore d'Isidore Isou, Invitation au voyage, avec une lecture d'un poème de Baudelaire du même nom. Un morceau de Bach par Glenn Gould. Des extraits sonores d'une éclipse totale de soleil de Guédalia Tazartès. Et enfin, un poème sonore d'Isidore Isou, Rituel somptueux pour la sélection des espèces. À bout de souffle sur le net, audioblog.arteradio.com/a-bout-2-souffle.